Oui, glorieux Saint-Esprit, nous te remercions parce que c'est toi qui as conçu Jésus dans le sein de Marie. Tu es venu sur Marie, tu as conçu Jésus dans son sein. Cette conception et cette naissance miraculeuse, c'est ton œuvre, Saint-Esprit. Nous savons que tu peux tout puisque tu es l'Esprit de Dieu, l'amour du Père et du Fils. Et viens ce soir dans nos cœurs pour ouvrir nos cœurs à la parole du Fils, pour ouvrir nos cœurs à l'amour du Père. Viens dans nos cœurs, Saint-Esprit. Du psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Voilà, c'est un des psaumes les plus courts du registre des 150 psaumes. Et le psalmiste exprime devant le Seigneur son sentiment intérieur et son attitude. Je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Si j'ai choisi ce psaume ce soir, c'est parce que pour rejoindre Jésus dans la crèche, il faut nous-mêmes retrouver cette attitude du psalmiste et avoir le cœur pauvre et humble. Et si nous nous sentons pauvres dans notre vie, eh bien tant mieux, parce que nous allons pouvoir entrer dans la crèche, dans le mystère de la crèche, dans ce lieu comme Thibault le disait tout à l'heure, où il n'y a que de la pauvreté. Il y a des choses très simples. C'est dans ce lieu très simple et très pauvre que le Fils éternel, lui qui est éternellement glorifié dans les cieux, avec le Père et le Saint-Esprit, en particulier par les anges qui glorifieront Dieu devant les bergers, bien lui qui est sans cesse glorifié dans le ciel, il a voulu se faire tout petit, tout pauvre, comme un petit enfant. Et ce petit enfant qu'il est, il vient nous rejoindre pour que nous-mêmes, nous puissions revenir vers Dieu sans avoir peur. Parce que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est l'orgueil et c'est la peur. L'orgueil parce que nous pensons n'avoir besoin de personne, et la peur parce que nous savons bien que nous sommes pleins de péchés, pleins de fautes, même si on se dit « Oh, moi, j'ai jamais tué personne ». Très bien, on n'a jamais tué personne, peut-être. Mais on a fait, même si on n'a jamais tué personne, on a fait plein d'autres fautes qui sont parfois importantes. Donc devant Dieu, nous nous demandons, mais comment je vais me présenter devant Dieu? Eh bien, quand on va devant un petit enfant, on ne se pose pas cette question-là, parce qu'on sait que le petit enfant, il ne vous juge pas. Quand vous prenez un petit enfant dans vos bras, même si vous vous sentez très pécheur, même si vous avez beaucoup de fautes sur la conscience, vous savez qu'il ne vous juge pas. Il a simplement besoin que vous l'aimiez, que vous le preniez dans les bras, que vous le caressiez. C'est ça ce qu'un petit enfant a besoin. Bien, le Seigneur Jésus nous demande de faire la même chose avec lui, de le prendre spirituellement dans nos bras, de l'aimer, de le caresser et de ne pas nous sentir jugés par lui puisqu'il est comme un petit enfant. Et il nous aime comme un petit enfant aime sa maman. Il nous aime du même amour. Vous voyez, c'est un amour incroyable, immense, même plus encore que ce qu'un petit enfant peut aimer sa maman. Et voilà l'amour de Dieu. Voilà cet amour petit, naïf, et immense à la fois. Mais cet amour qui est immense veut se donner à travers la petitesse, parce que pour comprendre que c'est un amour qui nous sauve, qui nous aime, qui ne nous juge pas, il fallait que Dieu se fasse tout petit devant nous. Pour nous apprendre nous aussi à être petits les uns devant les autres. Et vous voyez, le paradoxe, c'est que accueillir Dieu dans un petit enfant, c'est pas si facile que cela. Il y a un grand saint qui s'appelle Saint Augustin. Eh bien, saint Augustin, il a cherché Dieu pendant longtemps auprès des philosophes, en particulier des platoniciens. Il a trouvé de belles choses sur Dieu à travers les philosophes, les platoniciens. Mais il a dit, chez eux, je n'ai jamais trouvé que Dieu s'était incarné, qu'il est devenu un petit enfant. Et ce qui lui manquait pour trouver le vrai Dieu, le Dieu réel, il le dit lui-même, c'était l'humilité. Cette humilité qui lui a permis de rejoindre le vrai Dieu, le Dieu réel. La porte pour entrer dans le royaume, pour accueillir Dieu, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est ce qui est dur pour chacun d'entre nous à vivre, parce que nous exaltons souvent nous-mêmes, et nous avons du mal à être petits devant Dieu et devant nos frères. C'est pour ça que Jésus dira lui-même, « Père, je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ce mystère aux sages et aux intelligents, aux sages et aux puissants, mais tu l'as révélé aux tout petits, pour s'élever vers Dieu, pour rejoindre notre Dieu qui est infiniment grand. » Il faut se faire tout petit. C'est ça le grand paradoxe de la vie chrétienne. Ce paradoxe qu'on ne trouve dans aucune autre religion que dans le judéo-christianisme, à savoir que pour s'élever vers Dieu, il faut se faire tout petit comme un enfant. Retrouver cette simplicité de l'enfant. Et c'est tellement simple, cette histoire-là, qu'il fallait que Dieu vienne nous le révéler, parce que spontanément, nous, on va chercher Dieu dans les grandeurs, dans la puissance que nous mettons à notre propre image, c'est-à-dire la puissance des armées, ou la puissance de la force qui écrase, mais Dieu se fait tout petit. Et cette immense force de Dieu, elle se manifeste dans la petitesse. Alors que le Seigneur nous aide, nous en ce temps de Noël, pour vivre vraiment cette joie de Noël, et bien de pouvoir redire ces paroles du psalmiste, « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ». Quand on dit ça, on sait bien qu'on a un peu le cœur fier et le regard ambitieux, mais ça veut dire « Seigneur, donne-moi ce cœur humble et enlève de moi tout regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Voilà, Seigneur, j'accepte ma vie telle qu'elle est. Peut-être que ma vie, elle est ratée. Peut-être que moi, je voulais faire des choses extraordinaires. Et puis ma vie, pouf, ma vie affective, c'est raté. Ma vie professionnelle, c'est raté. Il y a des gens qui me disent ça parfois. Moi, j'ai tout raté dans ma vie. » Eh bien, c'est peut-être le chemin le plus direct pour aller vers Dieu et rejoindre Dieu dans sa petitesse, paradoxalement, cette vie ratée. Parfois, c'est peut-être plus difficile de rejoindre Dieu quand on croit qu'on a tout réussi, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus capable de s'abaisser. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Voilà, retrouver la paix de l'âme. Il y a tellement de bruit dans notre civilisation, dans notre culture, dans notre tête, qu'avoir cette grâce d'une âme égale et silencieuse. Égale, ça veut dire apaisée, dans la paix. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. C'est beau cette réflexion, parce que même les psychologues savent que au fond de notre cœur, on a un cœur d'enfant. Beaucoup de psychologie s'appuient, de théories psychologiques s'appuient sur cette idée-là. En nous, on a quelque chose de l'enfant. On a gardé quelque chose de l'enfant. Et ce qu'on a gardé de l'enfant dans notre cœur, c'est ce qu'il y a de plus beau en nous, de plus profond, de plus pur. C'est ça qu'il faut garder bien précieusement. Ça ne veut pas dire qu'il faut agir de manière infantile. Il faut garder cette simplicité du cœur de l'enfant qui est capable de s'ouvrir, de s'émerveiller, d'aimer, de s'étonner. Voilà, toutes ces capacités de l'enfance que l'on perd quand on devient adulte, paradoxalement. Et que pour nous, c'est un travail de retrouver cette capacité d'émerveillement, d'héberger à la crèche, des anges qui sont étonnés de voir leur Seigneur comme un petit bébé. Et les anges chantent dans le ciel parce que pour eux-mêmes, c'est un étonnement de voir combien le Seigneur s'est abaissé pour nous rejoindre. Alors devant un tel amour, de quoi avoir peur? Devant un tel amour, rejetons tout orgueil, ne cherchons pas à nous élever, puisque c'est en bas que nous trouverons le Seigneur et non pas en haut. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'entendre quelques témoignages des grâces multiples et diverses que le Seigneur fait dans cette prière. Beaucoup de grâces. Et un témoignage qui n'est pas banal. C'est une lettre que j'ai reçue, que je vais vous résumer. Donc, c'est une personne une femme qui est venue de Genève. Elle est protestante. Cette femme était protestante quand elle est venue ici. Mais elle aimait beaucoup en même temps la Vierge Marie et elle venait régulièrement à la chapelle de la médaille miraculeuse pour remercier Marie de beaucoup de grâces qu'elle avait obtenues, en particulier pour son mari. Et puis elle est venue à la prière des malades. Quand le Saint-Sacrement est passé devant elle, elle a ressenti une émotion très forte. Elle s'est mise à pleurer, ce qui veut dire qu'elle reconnaissait la présence réelle du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et à ce moment-là, il y a une parole qui a dit qu'une personne a ressenti une grande émotion et a pleuré au passage du Saint-Sacrement. Jésus met son cœur contre le sien. Voilà. Et si avec ça, ça ne serait rien, à partir de ce moment-là, elle a vécu un chemin de conversion très fort. Et je ne raconte pas tout, mais progressivement, le Seigneur lui a fait rencontrer un prêtre qui lui a permis, eh bien, de pouvoir se préparer à entrer dans l'Église catholique. Et donc, elle a pu entrer dans l'Église, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans sa lettre, elle explique que quand elle était protestante, elle venait communier en secret. En principe, quand on est protestant, on ne peut pas communier au corps du Christ dans l'Église catholique, parce que ce n'est pas la même foi. Mais elle, elle aimait tellement le Seigneur qu'elle ne pouvait pas ne pas le faire. Donc elle l'a fait, et le Seigneur, eh bien, lui a permis, après son entrée dans l'Église, de pouvoir communier vraiment à lui. Mais avant même, il lui a donné un signe que je ne peux pas vous expliquer, excusez-moi, où il a montré qu'il l'aimait beaucoup et qu'il était uni à son cœur, comme il lui avait déjà montré au passage du Saint-Sacrement. Alors, c'est pas terminé, parce qu'ensuite, elle est revenue à la prière des malades, le 15 décembre 2016, et elle avait une grosse inquiétude pour la santé de sa maman, qui avait 89 ans à ce moment-là, qui était hospitalisée depuis plus de 10 mois pour un cancer de l'intestin. 3 opérations très importantes avaient été nécessaires. Elle avait été nourrie artificiellement pendant plus de 4 mois. Elle avait perdu près de 30 kilos. Son processus vital était engagé. Et à 3 reprises, les médecins nous ont appelés pour que nous puissions prendre congé d'elle. Enfin bref, elle était pour tout le monde quasi morte. Comme elle souffrait d'une infection généralisée des intestins suite à la pose d'une deuxième poche, les médecins avaient décidé de se contenter des soins palliatifs et lui ont administré la morphine pour terminer sa vie sans souffrir. Lors de la prière des malades, une parole de connaissance a parlé d'une personne qui retrouverait la force dans ses jambes. Je n'ai pas pensé à elle car son cas semblait trop désespéré et j'avais prié en réalité pour qu'elle parte sans souffrir. Or, de retour à Genève, les choses ont évolué si rapidement et de manière si étonnante que j'ai compris qu'elle avait été guérie. En une semaine, les médecins ont renoncé à la morphine, étonnés par ses résultats sanguins redevenus normaux. Ils ont enlevé la sonde gastrique et l'ont accompagnée pour marcher le long des couloirs de l'hôpital. À 89 ans, après 10 mois de lit, ces gens ont retrouvé leur force. Ils nous ont avoué ne pas comprendre, elle était vraiment miraculée. Cela fait maintenant une année qu'elle va très bien. Pour ses 90 ans, elle a même réalisé 2 rêves, une balade en Harley-Davidson, c'est une moto, Harley-Davidson, je crois, je connais pas grand-chose, mais je crois que c'est une moto, et un saut en parapente, à 90 ans. Voilà, et bien cette dame presque mourante, le Seigneur l'a complètement relevée, et à 90 ans, elle réalise les 2 rêves de sa vie, qu'elle n'aurait jamais cru réaliser, une balade en Harley-Davidson et un saut en parapente. Merci Seigneur. Ah, Annick, je suis venu le jeudi 9 novembre 2017. J'avais mal au dos, surtout au bas du dos à droite. J'avais beaucoup de mal à marcher. Je souffrais beaucoup, en particulier le soir. Ce jour-là, je suis allé voir un médecin qui m'a donné une date pour faire des infiltrations. Et puis, quand je suis sorti après, je suis allé à la prière des malades, c'était un jeudi, et elle dit, quand je suis sorti de la prière des malades, je n'avais plus mal. Donc le médecin lui donne des infiltrations le matin, à la date uniquement, elle n'a pas fait d'infiltration, mais elle a été guérie en cours de journée, l'après-midi. Je marche beaucoup mieux, je me baisse sans problème, et puis aussi, j'avais des fourmis dans ma jambe droite, car j'avais une trop mauvaise circulation, je n'ai plus ce problème. Merci Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Témoignage d'Annick. Alors un autre témoignage très étonnant, c'est Josiane. Donc Josiane, d'abord je dois vous dire qu'elle aime beaucoup Padre Pio, et Padre Pio lui a donné beaucoup de grâce. En particulier, en mars 2017, elle a fait une consultation en ophtalmologie avec ses lunettes. Elle avait 5 dixièmes à chaque œil. Et le diagnostic, c'est qu'elle avait déjà, à 57 ans, la cataracte. Alors, elle raconte ensuite dans sa lettre que les grâces que Padre Pio lui a déjà données. Ça, je passe dessus. Alors, Josiane, Padre Pio la pousse à téléphoner. Vous savez qu'il y a des gens qui appellent Saint-Nicolas pour les poser des intentions dans la corbeille. Elle a appelé pour qu'une opération de la cataracte soit évitée et pour soulager ses douleurs dorsales, parce qu'elle avait aussi des douleurs dorsales. Donc elle a appelé le 16 octobre. Elle avait le 16 octobre donc ce problème de cataracte. Le 20 octobre, donc 4 jours plus tard, le 20 octobre, 4 jours plus tard, donc après la prière des malades, Elle va à la consultation d'ophtalmologie pour fixer la date de l'opération. Et là, le médecin lui dit, alors là, c'est complètement incroyable, le médecin lui dit qu'elle a non pas maintenant 5 dixièmes des deux yeux, mais 16 dixièmes. C'est complètement, c'est le maximum de ce qu'on peut avoir, c'est extrêmement rare. C'est une vue très perçante. Donc elle passait de 5 dixièmes à 16 dixièmes, je suis allé vérifier sur internet, ça existe, avoir 16 dixièmes des yeux. Je ne savais même pas qu'on pouvait passer 10 dixièmes. Elle a retrouvé 16 dixièmes. Alors le plus incroyable, écrit-elle dans sa lettre, c'est qu'elle a toujours la cataracte. C'est-à-dire quand on regarde le cristallin qui est dans son œil, il est toujours opacifié, mais le Seigneur lui a donné, par l'intercession de Padre Pio en particulier, cette grâce d'une vue parfaite, donc l'opération est annulée, même si il y a un diagnostic de cataracte, mais elle voit parfaitement, donc il n'y a plus besoin d'opération. Merci Seigneur. Alors, ça c'était Josiane. Alors, une personne écrit aussi une lettre pour rendre grâce à Dieu. En janvier 2017, elle a ressenti une forte douleur au niveau de la gorge. Donc un spécialiste a détecté une grosse boule dans sa gorge. Il lui a annoncé qu'elle devrait probablement subir une opération et elle espérait même que cette boule ne soit pas cancéreuse. Le jeudi suivant ce rendez-vous, cette personne s'est rendue à la prière des malades dont sa cousine lui avait parlé. Une parole de connaissance a annoncé la guérison de la gorge d'une personne qui venait d'entrer dans l'église. Au second rendez-vous avec le spécialiste, donc le rendez-vous, j'avais parlé du premier rendez-vous tout à l'heure, il avait un deuxième rendez-vous après la prière des malades, et bien cette boule avait disparu, et les analyses qu'on lui a fait faire ont confirmé que tout allait bien, donc elle termine sa lettre de témoignage par « Je remercie le Seigneur pour cette grâce ». Voilà, maintenant il est temps d'accueillir Jésus lui-même dans